Chapitre 22. De la ruine du Doliath. L'histoire de Turin Turambar était à son terme. Mais Morgoth ne dormait pas. Sa malveillance ne souffrait aucune trêve et il n'en avait pas terminé avec la maison de Hador. Sa haine contre eux restait inassouvie, bien que Húrin fût sous vigilance et Morwen éperdu au milieu des terres sauvages. Húrin subissait un triste sort, car tout ce que Morgoth savait du fruit de ses machinations, Húrin l'apprenait aussi, mais toute vérité se teintait de mensonge et tout le bien lui était caché ou rendu méconnaissable. Avant toute chose, Morgoth ne négligeait aucun moyen pour montrer les actions de Thingol et Méliane sous un mauvais jour, car il les haïssait et il les craignait. Quand donc il jugea que le moment était venu, il libéra Húrin de ses fers en lui disant d'aller où il voulait. Et ce faisant, il prétendait agir par compassion pour un ennemi entièrement vaincu. Mais il mentait, car son dessein pour Húrin voulait qu'il servît encore sa haine des elfes et des hommes avant de mourir. Alors, bien qu'il prêtât peu de foi aux paroles de Morgoth, sachant bien qu'il était sans pitié, Húrin prit sa liberté et partit l'âme en peine, aigri par les paroles du sombre seigneur. Et il s'était passé un an depuis la mort de son fils Turin. Il était resté 28 ans prisonnier d'Angband et avait désormais sombre apparence. Sa barbe et ses cheveux étaient fort longs et blancs, mais il marchait le dos droit, un grand bâton noir à la main, et il était ceint d'une épée. Il passa donc au Ithlum, et les chefs des Orientais apprirent qu'une grande escorte de capitaines et de noirs soldats d'Angband s'avançait sur les sables de l'Anfauglith, et qu'un vieil homme allait avec eux, tel un personnage tenu en grand honneur. Ils se gardèrent donc d'arrêter Húrin, le laissant vaguer à son gré dans le pays, ce qui fut sage de leur part, car les restes de son peuple prirent soin de l'éviter, lui qui rentrait d'Angband, comme un allié couvert d'honneur par Morgoth. Voyant que sa liberté ne lui servait de rien, sinon que d'ajouter à son amertume, Húrin quitta les terres du Ithlum et gravit les montagnes. Alors il discerna au loin, parmi les nuages, les pics des Crisaegrim, et le souvenir de Turgon lui revint. Et il voulut retourner dans le royaume caché de Gondolin. Il descendit donc des Eredwethrin, sans savoir que les créatures de Morgoth surveillaient chacun de ses pas. Et il franchit le Brithiac et pénétra au Dimbar, jusque dans l'ombre des Ekoriath. Le froid et la désolation l'entouraient, et il scruta les environs sans grand espoir, au pied d'un grand éboulis de pierre sous une paroi abrupte. Il ignorait que c'était tout ce qui restait de l'ancien chemin d'évasion. La rivière à sec était bouchée, l'arche de pierre enterrée. Húrin leva alors les yeux vers le ciel gris, espérant déceler quelques signes des aigles, comme autrefois dans sa jeunesse, mais il ne vit que les ombres portées à l'ouest et les nuages agrippés autour des cimes inaccessibles, et il n'entendait que le sifflement du vent sur les pierres. Mais les grands aigles avaient redoublé de vigilance, et ils ne manquèrent pas d'apercevoir la figure solitaire de Húrin, loin, en bas, dans le jour défaillant. Et Thorondor lui-même, car la nouvelle semblait d'importance, alla aussitôt en informer Turgon. Mais Turgon dit «
Morgoth dort-il donc? Vous avez fait erreur. »
« Non pas, » dit Thorondor. « Si les aigles de Manwë pouvaient s'abuser de la sorte, il y a bien longtemps, seigneur, que ta retraite eût été vaine. »
« Alors ton annonce ne présage rien de bon, » répondit Turgon, « car elle ne peut signifier qu'une chose. Húrin Thalion lui-même s'est rendu à la volonté de Morgoth. Mon cœur est fermé. »
Mais après le départ de Thorondor, Turgon médita longtemps ce signe, et il doutait, se rappelant la conduite de Húrin du Dol Lomín. Et il ouvrit son cœur et envoya les aigles pour retrouver Húrin et le ramener à Gondolin, si faire se pouvait. Mais il était trop tard, et ils ne le revirent plus jamais, dans l'ombre ou dans la lumière. Car Húrin se tenait au désespoir devant les murs silencieux des Ekoriath, et le soleil déclinant perça les nuages et tacha de rouge ses cheveux blancs. Alors il s'écria au milieu de la désolation,
insoucieux de qui pouvait l'entendre, et il maudit les terres sans pitié. Et enfin, debout sur un grand rocher, il se tourna vers Gwendolyn et appela d'une voix puissante « Turgon, Turgon, souviens-toi du marais de Sélek. Ô Turgon, n'entends-tu pas de ta demeure secrète ?» Mais il n'y eut pas le moindre son, hormis le vent dans les herbes sèches. « Elle bruissait de la même voix ce soir-là à Sélek, » dit-il. Et à ces mots, le soleil passa derrière les montagnes de l'ombre, et des ténèbres l'enserrèrent, et le vent se tut, et le silence tomba sur la désolation. Il y eut toutefois des oreilles pour entendre les mots que Hurin avait prononcés, et tous furent bientôt ébruités devant le sombre trône du Nord. Et Morgoth sourit, car à présent, il connaissait précisément la région où Turgon se tenait caché, même si, à cause des aigles, le pays derrière les montagnes encerclantes restait impénétrable à la vue de ses espions. Ce fut le premier des maux engendrés par la délivrance de Hurin. À la tombée de la nuit, Hurin descendit du rocher avec peine et, d'abattement, tomba profondément endormi. Mais dans son sommeil, il entendit la voix de Morwen qui se lamentait. Souvent, elle appelait son nom, et il lui semblait que sa voix émanait de Brethil. Alors, quand il se réveilla au point du jour, il se leva et retourna au Brithiac. Et longeant les frondaisons de Brethil, il parvint une nuit au passage du Teiglin. Les sentinelles nocturnes l'aperçurent, mais restèrent saisies de terreur, car ils croyaient voir un fantôme sorti de quelque ancien tertre de guerre et qui marchait entouré de ténèbres. Hurin passa donc sans encombre, et il arriva enfin sur les lieux où Glaurung avait été brûlé, et vit la grande pierre levée au bord de Kabed Naedamarth. Mais Hurin ne regarda pas la pierre, car il savait ce qui y était inscrit, et ses yeux avaient constaté qu'il n'était pas seul. Assise dans l'ombre de la pierre était une femme, ses genoux ramassés contre sa poitrine. Et alors que Hurin se tenait là, elle rejeta son capuchon en loques et leva la tête. Elle était grise et décatie, mais ses yeux plongèrent tout à coup dans les siens et il la reconnut. Car s'ils étaient hagards et remplis de crainte, il conservait cet éclat qui autrefois lui avait valu le nom d'Elédouen, la plus digne et la plus belle des femmes mortelles de l'ancien temps.
« Enfin vous voilà, » dit-elle. « J'ai attendu trop longtemps. »
La route était sombre. « Je suis venu comme je l'ai pu, » répondit-il.
« Mais vous venez trop tard, » dit Morwen. « Ils sont perdus. »«
Je le sais, » dit-il, « mais vous ne l'êtes pas. »
Mais Morwen dit, « Presque. Je suis au bout de mes forces. Je partirai avec le soleil. Il reste peu de temps. Si vous savez, dites-le-moi. Comment l'a-t-elle trouvé ?»
Mais Hurin ne répondit pas. Et ils restèrent assis près de la pierre et ne parlèrent plus. Et quand le soleil baissa, Morwen soupira et étreignit sa main, puis cessa de bouger. Et Hurin sut qu'elle était morte. Il scruta son visage dans le crépuscule, et il lui sembla que les rides du chagrin et des cruelles épreuves en étaient effacées.
« Elle n'a pas été vaincue, » dit-il.
Et il ferma les yeux, et resta assis auprès d'elle, immobile, alors que la nuit tombait. Les eaux de Kabed Naedamarth grondaient inlassablement, mais il n'entendait aucun son et ne voyait rien, ne ressentait rien, car au fond de lui-même, son cœur était de pierre. Mais un vent glacial se leva qui aspergea son visage d'une pluie cinglante et le réveilla. Et la colère monta en lui comme une fumée d'incendie, étouffant sa raison. De sorte que son désir ne tendait plus qu'à la vengeance, vengeance pour les torts qu'il avait subis et qu'on avait causés aux siens, et sa détresse lui faisait accuser tous ceux à qui ils avaient jamais eu affaire. Alors il se leva, et il prépara une tombe pour Morwen, au-dessus de Kabed Naedamarth, du côté ouest de la pierre, sur laquelle il grava ces mots, « Sigi aussi, Morwen et les douanes ». On raconte qu'un voyant de Brethil, un harpiste du nom de Glirwin, composa un chant qui disait que la pierre des infortunés ne devait jamais être souillée par Morgoth,
ni renversée, ni détruite, quand bien même l'océan avalerait toutes les terres. Ce qui en vérité arriva. Et encore aujourd'hui, Tol Morwen se dresse seul au milieu des eaux, loin des nouvelles côtes façonnées au temps de la colère des Valar. Mais Urim n'y repose pas, car son destin le poussait toujours plus avant, et l'ombre continuait de le suivre.
Or, Urim franchit le Teiglin et prit vers le sud sur l'ancienne route menant à Nargothrond. Et plus à l'est et au lointain, il vit l'éminence solitaire d'Amon-Rud, sachant ce qui s'y était passé. Enfin, parvenu aux berges du Narog, il hasarda la traversée des eaux tumultueuses sur les ruines du pont, comme Mablung du Doriath l'avait fait avant lui. Et il se tint devant ce qui restait des portes de Felagund, appuyé sur son bâton. Il faut dire ici qu'après le départ de Glaurung, Mime le petit nain s'était rendu jusqu'à Nargothrond et s'était introduit dans ses halles en ruine. Et il en avait pris possession, et restait là à caresser l'or et les gemmes, ne cessant de les faire glisser entre ses doigts, car personne n'était venu l'en dépouiller, par crainte de l'esprit de Glaurung et de son seul souvenir. Mais quelqu'un était là à présent, debout sur le seuil. Et Mime s'avança et lui demanda ce qu'il voulait. Mais Urim dit, « Qui es-tu qui voudrais m'empêcher d'entrer dans la maison de Finrod Felagund ?» Alors le nain répondit, « Je suis Mime, et avant que les arrogants n'arrivent de la mer, les nains ont creusé les halles de Nulukizdin. Je suis seulement venu reprendre mon bien, car je suis le dernier de mon peuple. » « Alors tu as fini de jouir de ton héritage, » dit Urim. « Car je suis Urim, fils de Galdor, revenu d'Angband, et mon fils était Turin Turambar, que tu n'as pas oublié. Et c'est lui qui a tué Glaurung le dragon, qui a dévasté ces halles où tu te goberges, et je n'ignore pas par qui fut trahi le home du dragon de Dorlomin. »
Lors, Mime, très effrayé, supplia Urim de prendre tout ce qu'il voudrait, mais de lui laisser la vie. Mais Urim n'accéda pas à sa prière, et le tua sur place, à la porte de Nargothrond. Puis il entra, et il hanta un temps ce terrible endroit où les trésors du Valinor jonchaient le sol parmi les ténèbres et la pourriture. Mais on raconte que quand Urim sortit des décombres de Nargothrond et se tint de nouveau sous le ciel, il n'emporta de tout ce trésor qu'un seul et unique objet. Or Urim se tourna vers l'est, et il gagna les mares du crépuscule au-dessus des chutes du Sirion. Là, il fut pris par les elfes faisant sentinelle sur les marches occidentales du Doriath, puis emmené devant le roi Thingol aux 1000 cavernes. Alors Thingol s'étonna fort de le voir, et il sut, bouleversé, que ce vieillard de sombre apparence n'était autre que Urim Thalion, le prisonnier de Morgoth. Mais il l'accueillit avec honneur et courtoisie. Urim ne répondit pas au roi, mais il sortit de son manteau cet unique objet qu'il avait emporté de Nargothrond. Et ce trésor n'était rien moins que le Nauglamir, le collier des nains, confectionné pour Finrod Felagund bien des années auparavant par les artisans de Nogrod et de Belégost, le plus célèbre de leurs ouvrages des jours anciens, que Finrod chérissait plus que tout parmi tous les trésors de Nargothrond. Et Urim le jeta aux pieds de Thingol avec des mots amers et emportés.
« Reçois ton salaire, » cria-t-il, « pour ta garde exemplaire de mes enfants et de mon épouse, car ceci est le Nauglamir, dont le nom est bien connu parmi les elfes et les hommes, et je le rapporte des ténèbres de Nargothrond, où Finrod, ton parent, l'avait laissé, quand il est parti avec Beren, fils de Barahir, pour s'acquitter de la mission de Thingol du Doriath. »
Lors, Thingol, posant les yeux sur ce trésor inestimable, reconnut le Nauglamir, et il releva tout aussi bien les reproches qu'on lui faisait. Mais il retint sa colère, et par pitié pour Urim, endura son mépris. Enfin Melian parla et dit,
« Urim Thalion, Morgoth t'a ensorcelé. Car qui voit par le regard de Morgoth, qu'il le veuille ou non, voit tout de travers. Ton fils Turin est longtemps demeuré dans le giron de Menegroth, où amour et honneur lui furent prodigués comme il revient au fils du roi. Et ce n'est pas par décret du roi ni de la reine s'il n'est jamais revenu au Doriath. Plus tard,
ton épouse et ta fille ont été hébergées ici dans l'honneur et la bienveillance, et nous avons toujours cherché à écarter Morwen de la route de Nargothrond. C'est avec la voix de Morgoth que tu réprimandes tes amis. »
Et sur les paroles de Melian, Urin se figea, et il regarda longtemps dans les yeux de la reine. Et là, à Menegroth, toujours abrité des ténèbres de l'ennemi par la ceinture de Melian, il sut l'entière vérité de ce qui s'était passé, et il goûta enfin jusqu'à la lie le trop-plein de malheur versé pour lui par Morgoth Baoglir. Et il n'évoqua plus le passé, mais se pencha pour ramasser le Naoglamir devant le siège de Thingol, et il lui remit, disant « Daignez recevoir, Seigneur, le collier des nains, comme cadeau de celui qui n'a rien, et en souvenir de Urin du Dorlomin. Car mon destin a suivi son cours, et le destin de Morgoth est accompli. Mais je ne suis plus son esclave. » Alors il se détourna et s'enfuit des mille cavernes, et tous ceux qui le virent reculèrent devant lui. Et nul ne chercha à le retenir, et personne ne sut où il allait. Mais on dit que Urin ne voulait plus vivre, et que, sans autre but ni aspiration, il se jeta enfin dans la mer de l'Ouest, et ainsi finit le plus grand guerrier parmi les hommes mortels. Mais quand Urin eut quitté Menegroth, Thingol demeura longtemps assis en silence à contempler le trésor sur ses genoux, et il se prit à songer qu'il fallait le faire reforger afin d'y sertir le Silmaril. Car plus les années passaient, plus les pensées de Thingol étaient tournées vers le joyau de Fëanor, sans plus pouvoir s'en détacher, et il n'aimait pas à le laisser derrière porte close, même au plus profond de ses chambres fortes. Et à présent, il résolut de le porter sur lui, nuit et jour, toujours. En ce temps-là, les nains voyageaient encore en Beleriand depuis leur palais des Ered Lindon, et souvent ils franchissaient le Gelion à Sarn Athrad, le gué de pierre, pour emprunter l'ancienne route du Doriath. Car ils s'entendaient fort bien au travail des métaux et de la pierre, et les Halles de Menegroth avaient beaucoup à gagner de leur expertise. Or, ils ne venaient plus en petits groupes comme autrefois, mais en grande compagnie bien armée, afin de se défendre dans les périlleuses contrées situées entre l'Aros et le Gelion, et ils vivaient alors à Menegroth dans des quartiers et des forges qui leur étaient réservés. De grands artisans de Nogrod étaient à ce moment-là tout dernièrement arrivés au Doriath, aussi le roi les fit-il venir et leur annonça son désir. Que le Naoglamir leur soit confié pour être refait, si leur habileté était suffisante, afin d'y sertir le Silmaril. Alors les nains contemplèrent l'œuvre de leur père, et leurs regards émerveillés se posèrent sur l'éclatant joyau de Fëanor. Et ils furent consumés par le désir de les posséder et de les emporter au loin dans leur demeure des montagnes. Mais ils scellèrent leurs pensées et consentirent au travail qui leur était confié. Leur labeur fut long, et Thingol descendait seul à leur profonde forge et ne laissait jamais de les regarder travailler. Avec le temps, son désir fut accompli, et les deux plus beaux ouvrages des elfes et des nains furent réunis en un seul. Et sa beauté était prodigieuse, car à présent, les innombrables pierres de Naoglomir reflétaient la lumière du Silmaril qui brillait en son sein et la restituait en des teintes merveilleuses. Lors, Thingol, seul parmi eux, voulut le reprendre et l'agrafer autour de son cou. Mais les nains dès lors refusèrent de le lui rendre, et insistèrent pour qu'il leur laissât, disant « De quel droit le roi elfe revendique-t-il le Naoglamir, forgé par nos pères à l'intention de Finrod Felagund, lequel est mort? Il le tient seulement de Urin, l'homme du Dorlomin, qui l'a soustrait comme un voleur aux ténèbres de Nargothrond. » Mais Thingol les perça à jour, voyant bien qu'ils cherchaient à dissimuler leur convoitise du Silmaril sous de nobles prétextes. Et dans sa colère et son orgueil, il ne tint aucun compte du danger, mais leur parla avec mépris, disant « Comment osez-vous, gens de grossière espèce, exiger quelque chose de moi, Elu Thingol, seigneur du Beleriand, dont la vie a commencé au bord des eaux de Quivienen, tant et tant d'années avant que s'éveillent les pères du peuple rabougri ?» Et se dressant fièrement parmi eux,
il leur ordonna de quitter le Doriath sans contrepartie et les couvrit de honte. À ces mots, la convoitise des nains se changea en furie, et ils l'entourèrent, portèrent les mains sur lui et le tuèrent sur place. Ainsi mourut dans les profondeurs de Menegroth Elwë Singollo, roi du Doriath, qui seul entre tous les enfants d'Ilúvatar s'unit à l'une des Ainur, et de tous les elfes délaissés, le seul qui vit un jour la lumière des arbres du Valinor, et son dernier regard se porta sur le Silmaril. Lors, les nains quittèrent Menegroth en emportant le Naoglamir, et ils fuirent vers l'est à travers Region. Mais la nouvelle traversa rapidement la forêt, et très peu dès lors franchirent l'Aros, car ils furent pourchassés à mort en tentant de gagner la route de l'est. Et le Naoglamir leur fut repris avant d'être rapporté à la reine Méliane dans la peine et l'amertume. Deux des meurtriers de Thingol échappèrent néanmoins à leurs poursuivants sur les marches orientales, regagnant leur lointaine cité des Montagnes Bleues. Et là, à Nogrod, ils racontèrent une partie de ce qui s'était passé, disant que les nains tués au Doriath l'avaient été sur ordre du roi elfe, qui comptait ainsi les spolier de leur récompense. Les nains de Nogrod, en grande colère, lamentèrent vivement la mort de leurs frères et de leurs plus grands artisans, poussant des gémissements en s'arrachant la barbe. Et ils restèrent longtemps à méditer leur vengeance. On raconte qu'ils demandèrent l'aide de Belégost, mais qu'elle leur fut refusée, et que les nains de Belégost voulurent les dissuader de leur action. Mais leurs conseils furent vains, et avant peu, une grande armée sortit de Nogrod, franchit le Gelion, et marcha vers l'ouest à travers le Beleriand. Un changement s'était lourdement abattu sur le Doriath. Méliane s'était longtemps recueillie auprès du roi Thingol, sa pensée retournant aux années des étoiles et à leur première rencontre parmi les rossignols de Nan-Elmoth en une lointaine époque. Et elle savait que sa séparation de Thingol en annonçait une autre, plus grande encore, et que le Doriath approchait de son ultime destin. Car Méliane était de la race divine des Valar, et c'était une Maia très puissante et d'une grande sagesse. Mais elle avait pris, par amour pour Elwë Singollo, une forme semblable aux aînés des enfants d'Ilúvatar, et devenait par cette union assujettie aux chaînes et aux entraves qui incombent à leur chair d'Arda. Sous cette forme, elle lui donna Lúthien Tinúviel, et cette même forme lui conférait un pouvoir sur la substance d'Arda, par lequel la ceinture de Méliane protégea longtemps le Doriath des maux de l'extérieur. Mais Thingol à présent était mort. Son esprit avait fui aux halles de Mandos, et sa mort amena aussi un changement chez Méliane. Il se fit donc à ce moment-là que son pouvoir se retira des forêts de Neldoreth et de Region, et l'Esgalduin, la rivière enchantée, parlait désormais d'une autre voix, et le Doriath était ouvert à ses ennemis. Sur quoi Méliane ne s'adressa plus qu'à Mablung pour lui dire de s'occuper du Silmaril et demander rapidement à Beren et Lúthien en Osiriand. Et elle disparut de la terre du milieu et passa au pays des Valar, au-delà de la mer de l'Ouest, dans les jardins de Lórien, d'où elle était venue, afin de méditer sur ses peines. Et ce conte ne parle plus d'elle. C'est ainsi que l'armée des Naogrim, ayant franchi l'Aros, pénétra sans encombre dans les bois du Doriath. Et ils ne rencontrèrent aucune résistance, car ils étaient nombreux et déterminés, et les capitaines des elfes gris, en proie au doute et au désespoir, se portaient de côté et d'autre en grand désarroi. Mais les nains ne dévièrent pas de leur but, et ils traversèrent le grand pont et entrèrent à Menegroth. Et il se passa là une chose des plus graves parmi les tristes événements des jours anciens. Car une bataille éclata dans les mille cavernes, et il y eut un grand nombre de morts de part et d'autre. Et les elfes et les nains ne l'ont pas oublié. Mais ces derniers furent victorieux, et les halles de Thingol furent pillées et mises à sac. Mablung, à la main lourde, tomba devant les portes du trésor où était gardé le Naoglamir, et le Silmaril fut pris. En ce temps-là, Beren et Lúthien vivaient encore à Tol Galen, l'île verte au milieu de la Durant, la plus méridionale des rivières qui descendaient des Ered Lindon pour rejoindre le Gelion. et leurs fils Dior et Lukil avaient épousé Nimloth, une parente de Celeborn, prince du Doriath et époux de la dame Galadriel. Les fils de Dior et de Nimloth se nommaient Elured et Elurin, et ils eurent aussi une fille, laquelle s'appelait Elwing, ce qui signifie « l'embrun sous les étoiles », car elle naquit sous un ciel étoilé dont l'éclat se mirait dans l'écume des chutes de Lanthir Lamath, près de la maison de son père. Or, le bruit avait couru chez tous les elfes de l'Ossiriande qu'une forte troupe de nains armés de pied en cap était descendue des montagnes, franchissant le Gélion au gué de pierre. Beren et Luthien ne tardèrent pas à l'apprendre, et au même moment, un messager arrivait du Doriath pour leur raconter ce qui s'y était passé. Lors Beren se leva et quitta Tol Galen, appelant à lui son fils Dior, et ensemble ils partirent vers le nord, jusqu'à la rivière Askar, accompagnés de nombreux elfes verts de l'Ossiriande. Quand donc les nains de Nogrod rentrèrent de Menegroth avec une armée réduite et parvinrent à Sarn Athrad, ils furent surpris par des ennemis invisibles. Car au moment où ils se hissaient sur les berges du Gélion, chargés d'un lourd butin, les bois s'emplirent tout soudainement de la sonnerie des cors des elfes, et une pluie de flèches les assaillit de tous côtés. Un très grand nombre de nains tombèrent dès le premier assaut. Mais quelques-uns échappèrent à l'embuscade et se rallièrent, et ils s'enfuirent vers l'est, jusque dans les montagnes. Et comme ils gravissaient les longues pentes du mont Dolmed, ils firent la rencontre des bergers des arbres, qui emportèrent les nains dans la pénombre des bois, au creux des Ered Lindon, d'où aucun ne ressortit, dit-on, pour franchir les cols menant à leur demeure. Dans cette bataille de Sarn Athrad, Beren livra son dernier combat. Il tua lui-même le seigneur de Nogrod et lui arracha le collier des nains. Mais ce dernier, à l'heure du trépas, jeta sa malédiction sur le trésor entier. Lors Beren s'émerveilla de retrouver ce même joyau qu'il avait enlevé de la couronne de fer de Morgoth, plus que jamais étincelant parmi l'or et les gemmes grâce à l'ingénieux talent des nains. Et il lava dans la rivière tout le sang qui le souillait. Et quand tout fut terminé, on engloutit le trésor du Doriath dans la rivière Askar, que l'on appela désormais Rathloriel, le lit doré. Mais Beren emporta le Nauglamir et rentra à Tol Galen. Luthien ne fut guère consolé d'apprendre que le seigneur de Nogrod avait péri comme beaucoup d'autres nains. Mais l'on dit, et l'on chante, que Luthien, paré de ce collier et de ce bijou immortel, fut la vision la plus belle et la plus glorieuse jamais donnée à voir en dehors du royaume de Valinor. Et pour une brève période, le pays des morts qui vivent devint un reflet du pays des Valar, et nul autre endroit depuis n'a jamais été si beau, si fécond et si lumineux. Puis Dior, l'héritier de Thingol, fit ses adieux à Beren et à Luthien, et il quitta Lanthir Lamath avec son épouse Nimloth pour se rendre à Menegroth et s'y établir. Et ses deux jeunes fils, Elured et Elurin, allèrent avec eux, de même qu'Elwing, sa fille. Alors les Sindar les accueillirent dans la joie, et s'arrachèrent à la sombre mélancolie que la mort du roi, celle d'Elor et le départ de Melian avaient fait naître en leur cœur. Et Dior et Lukil entreprirent de restaurer la gloire du royaume de Doriath. Par une nuit d'automne, alors qu'il se faisait tard, quelqu'un vint frapper aux portes de Menegroth, demandant audience auprès du roi. C'était un seigneur des elfes verts venu en hâte de l'Ossiriande, et les huissiers le conduisirent là où Dior se tenait assis, seul dans sa chambre. Et là, sans mot dire, il remit au roi un coffre et prit congé de lui. Mais dedans ce coffre se trouvait le collier des nains, où était serti le Silmaril. Et Dior, baissant les yeux sur le collier, y vit le signe que Beren Erkamion et Luthien Tinuviel étaient bel et bien morts, partis là où vont ceux de la race des hommes, vers un destin au-delà du monde. Longtemps Dior resta à contempler le Silmaril que ses pères et mères avaient soutiré contre tout espoir à la terreur de Morgoth. Et il s'affligea de savoir que la mort les avait pris si tôt. Mais les sages ont affirmé que le Silmaril avait précipité leur fin, car la beauté de Luthien, quand elle le portait, brillait d'une flamme trop vive pour les terres mortelles. Puis Dior se leva et agrafa le Naoglamir autour de son cou, et il apparut alors comme le plus beau des enfants du monde, issu de triple lignage, les Edain, les Eldar et les Maillard du royaume béni. Or, le bruit courut néanmoins, parmi les elfes dispersés en Beleriand, que Dior, l'héritier de Thingol, portait le Naoglamir, et on dit « Il luit de nouveau un Silmaril de Fëanor dans les bois du Doriath ». Et le serment des fils de Fëanor fut de nouveau tiré du sommeil. Car tant que Luthien portait le collier des nains, aucun elfe n'eût osé l'assaillir. Mais lorsqu'ils eurent vent du renouveau au Doriath et de l'orgueil de Dior, les sept se réunirent au bout de leurs errances et ils envoyèrent des messagers pour réclamer leurs biens. Mais Dior ne fit aucune réponse aux fils de Fëanor, et Celegorm exhorta ses frères de préparer l'assaut contre le Doriath. Ils surgirent à l'improviste, au milieu de l'hiver, et vinrent combattre Dior aux mille cavernes. Ainsi advint le second massacre entre elfes et elfes. Là mourut Celegorm de la main de Dior, et là tombèrent Curufin et le sombre Calanthir. Mais Dior aussi fut tué, ainsi que Nimloth, son épouse, et les cruels serviteurs de Celegorm enlevèrent ses jeunes fils et les laissèrent mourir de faim dans la forêt. Et Maedhros se repentit de ce crime odieux et fut longtemps à leur recherche dans les bois du Doriath. Mais sa quête resta vaine, et il n'est aucun récit pour rendre compte du sort d'Elured et d'Elurin. Le Doriath fut ainsi détruit et ne se releva jamais. Mais les fils de Fëanor n'obtinrent pas ce qu'ils étaient venus chercher, car une poignée de fuyards leur échappèrent, parmi lesquels se trouvait Elwing, fille de Dior. Et, emportant le Silmaril, ils finirent par trouver refuge aux bouches du fleuve Sirion, près de la mer.